Chapitre 4. Monsieur Weller Senior profère quelques opinions critiques concernant les compositions littéraires. Puis, avec l'assistance de son fils Samuel, il s'acquitte d'une partie de sa dette envers le révérend gentleman au nez rouge. Le 13 février, comme le savent aussi bien que nous les lecteurs de cette authentique narration, était la veille du jour désigné pour le jugement de l'action intentée par Madame Bardell. Ce fut une journée fatigante pour Samuel Weller, qui fut occupé sans interruption depuis 9 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi inclusivement, à voyager de l'hôtel de M. Pickwick au cabinet de M. Perker et réciproquement. Non pas qu'il y eût la moindre chose à faire, car les consultations avaient eu lieu et l'on avait définitivement arrêté la marche qui devait être suivie, mais M. Pickwick, se trouvant dans un état d'excitation excessive, persistait à envoyer constamment à son avoué de petites notes contenant seulement cette demande. « Cher Perker, tout marche-t-il bien ?» À quoi M. Perker répondait invariablement « Cher Pickwick, aussi bien que possible. » Le fait est, comme nous l'avons déjà fait entendre, que rien ne pouvait marcher, soit bien, soit mal, jusqu'à l'audience du jour subséquent. Mais on doit passer aux gens qui vont volontairement devant un tribunal ou qui y sont traînés forcément pour la première fois, l'irritation temporaire et l'anxiété dont ils sont atteints. Sam n'ignorait pas cela, il savait se prêter philosophiquement aux faiblesses de la nature humaine. Aussi exécuta-t-il toutes les fantaisies de son maître avec cette bonne humeur imperturbable qui formait l'un des traits les plus frappants et les plus aimables de son caractère. Il s'était réconforté avec un petit dîner fort agréable et attendait à la buvette la chaude mixture que M. Pickwick l'avait engagé à prendre pour noyer les fatigues de ses promenades matinales, lorsqu'un jeune garçon, dans la casquette à poils, la jaquette de flanelle et toute la tournure, annonçait qu'il avait la louable ambition d'atteindre un jour la dignité de palefrenier, entra dans le passage du Georges et Vautour et regarda d'abord sur l'escalier, ensuite le long du corridor, puis enfin dans la buvette, comme s'il avait cherché quelqu'un pour qui il aurait eu une commission. La demoiselle de comptoir, ne considérant pas comme improbable que la dite commission eût pour objet l'argenterie de l'établissement, accosta en ces termes l'indiscret personnage.
« Eh bien, jeune homme, qu'est-ce que vous voulez ?
Y a-t-il ici quelqu'un appelé Sam ?
Répondit le gamin d'une voix de fossé. « Et l'autre non ? Demanda Sam en se retournant.
« Est-ce que je sais, moi ?
Rétorqua vivement le jeune gentleman à la casquette velue.
« Vous avez l'air joliment fin, mon petit, mais à votre place, je ne ferai pas trop voir ma finesse ici, on pourrait vouloir vous l'émousser. Qu'est-ce que ça veut dire de venir dans un hôtel, demander après Sam avec autant de politesse qu'un sauvage indien ?»«
Parce qu'il y a un vieux qui me l'a dit. »«
Quel vieux ?» demanda Sam avec un profond dédain.
« Celui-là qui conduit la voiture d'Ipswick et qui remise à notre auberge. Il m'a dit hier matin de venir cet après-midi au Georges et Vautour et de demander Sam. »«
C'est mon auteur, ma chère, » dit Sam en se tournant d'un air explicatif vers la demoiselle de comptoir. « Dieu me bénisse s'il sait mon autre nom. Eh bien, jeune chou frisé, qu'est-ce qu'il y a encore ?»
« Y a qui dit que vous veniez chez nous à 6 heures parce qu'il veut vous voir à l'ours bleu près du marché de Leadenhall. J'y dirai-t-il que vous viendrez ?»«
Oui, monsieur, » répliqua Sam avec une exquise politesse. « Vous pouvez vous aventurer à dire cela. »
Ayant reçu ses pleins pouvoirs, le jeune gentleman s'éloigna, éveillant en chemin tous les échos de George Yard, par des imitations singulièrement sonores et correctes du sifflet d'un bouvier. Sam obtint facilement un congé de M. Pickwick, car dans l'état d'excitation et de mécontentement où se trouvait notre philosophe, il n'était pas fâché de demeurer seul. Sam se mit donc en route, longtemps avant l'heure indiquée, et ayant du temps à revendre,
s'en alla tout en flânant jusqu'à Mansion House. Là, il s'arrêta et s'occupa à contempler, avec un calme philosophique, les nombreux cabriolets et les innombrables voitures de toute espèce qui stationnent aux environs, à la grande terreur et confusion des vieilles femmes du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Ayant musé dans cet endroit pendant une demi-heure, Sam se remit en route et se dirigea vers le marché de Leadenhall, à travers une multitude de ruelles et de cours. Comme il travaillait à perdre son temps et s'arrêtait devant presque tous les objets qui frappaient sa vue, on ne doit nullement s'étonner de ce qu'il fit une pause devant la demeure d'un petit papetier. Mais ce qui est sans autre explication paraît très surprenant, c'est qu'à peine ses yeux s'étaient-ils arrêtés sur certaines peintures exposées aux vitres de la boutique, qu'il tressaillit violemment, frappa énergiquement de sa main droite sur sa cuisse et s'écria avec une grande véhémence. « Ma foi, j'aurais oublié de lui en envoyer un. Je ne me serais pas rappelé que c'est demain la Saint-Valentin. » Le dessin colorié sur lequel s'étaient arrêtés les yeux de Sam tandis qu'il parlait ainsi représentait deux cœurs humains, hauts en couleur, fixés ensemble par une flèche et qui cuisaient devant un feu ardent. Un couple de cannibales, mâles et femelles, en costume moderne, le gentleman vêtu d'un habit bleu et d'un pantalon blanc, la dame d'une pelisse rouge avec un parasol pareil, s'avançaient vers ce rôti d'un air affamé et par un sentier couvert d'un sable fin. Un petit garçon, fort immodeste, car il n'avait pour tout vêtement qu'une paire d'ailes, surveillait la cuisine. Dans le fond, on distinguait le clocher de l'église de Langham. Bref, cela représentait une de ces lettres d'amour qu'on nomme un Valentin. Il s'en trouvait dans la boutique un vaste assortiment, comme l'annonçait une inscription manuscrite collée au carreau, et le papetier s'engageait à les livrer à ses concitoyens au prix modéré d'un shilling six pence. « Eh bien, je n'aurais jamais songé à lui en envoyer un, » répéta Sam. Et, en parlant ainsi, il entra tout droit dans la boutique et demanda une feuille du plus beau papier à lettres doré sur tranche, ainsi qu'une plume taillée dure et garantie pour ne pas cracher. Ayant obtenu promptement ses objets, il se remit en route d'un bon pas, fort différent de l'allure nonchalante qu'il avait auparavant. Arrivé près du marché de Leadenhall, il regarda autour de lui et vit une enseigne sur laquelle le peintre avait dessiné quelque chose qui ressemblait à un éléphant bleu de ciel avec un nez aquilin au lieu de trompe. Conjecturant judicieusement que c'était l'ours bleu en personne, Sam entra dans la maison et demanda l'auteur de séjour. « Il ne sera pas ici avant trois quarts d'heure au plus tôt, » répondit la jeune lady qui dirigeait les arrangements domestiques de l'ours bleu. « Très bien, ma chère, » répliqua Sam, « faites-moi donner pour 9 pence d'eau-de-vie avec de l'eau chaude et l'encrier, s'il vous plaît, miss. » L'eau-de-vie et l'eau chaude avec l'encrier ayant été apportées dans le petit parloir, la jeune lady aplatit soigneusement le charbon de terre pour l'empêcher de flamber et emporta le fourgon pour ôter toute possibilité d'attiser le feu sans avoir obtenu préalablement le consentement et la participation de l'ours bleu. Pendant ce temps, Sam, assis dans une stalle près du poêle, tirait de sa poche la feuille de papier doré et la plume au bec dur, examinait soigneusement la fente de celle-ci pour voir s'il ne s'y trouvait point de poils, époussetait la table de peur qu'il n'y eût des miettes de pain sous son papier, relevait les parements de son habit, étalait ses coudes et se préparait à écrire. Écrire une lettre n'est pas la chose du monde la plus facile pour les ladies et les gentlemen qui ne se dévouent pas habituellement à la science de la calligraphie. Dans des cas semblables, l'écrivain a toujours considéré comme nécessaire d'incliner sa tête sur son bras gauche, de manière à placer ses yeux autant que possible au même niveau que son papier, et tout en considérant de côté les lettres qu'il construit, de former avec sa langue des caractères imaginaires pour y correspondre. Or,
quoique ces mouvements favorisent incontestablement la composition, ils retardent quelque peu les progrès de l'écrivain. Aussi y avait-il plus d'une heure et demie que Sam s'appliquait à écrire en caractères menus, effaçant avec son petit doigt les mauvaises lettres pour en mettre d'autres à la place et repassant plusieurs fois sur celles-ci afin de les rendre lisibles, lorsqu'il fut rappelé à lui-même par l'entrée du respectable monsieur Weller. « Eh ben, Samy, » dit le père. « Eh bien, bleu de Prusse, » répondit le fils en déposant sa plume. « Que dit le dernier bulletin de la santé de belle-mère ?»« Madame Weller a passé une bonne nuit, mais elle est d'une humeur joliment massacrante ce matin. Signez avec serment Tony Weller, Squire. »« Voilà le dernier bulletin, Samy, » répliqua M. Weller en dénouant son châle. « Ça ne va pas donc mieux ?»« Tous les symptômes aggravés, » dit le père en hochant la tête. « Mais qu'est-ce que vous faites donc là, Samy ? Instruction primaire, hein ?»« J'ai fini maintenant, » répondit Sam avec un léger embarras. « Étais en train d'écrire. »« Je le vois bien, pas à une jeune femme, j'espère. »« Ma foi, ça ne sert à rien de dissimuler. C'est un Valentin. » « Un quoi ?» s'écria le père, que le son de ces mots semblait frapper d'horreur. « Un Valentin !»« Samivel, Samivel !» reprit le père d'un ton plein de reproches. « Je n'aurais pas cru cela de toi, après l'exemple que tu as eu des penchants vicieux de ton père, après tout ce que j'étais raisonné sur ce sujet ici, après avoir vécu toi-même avec ta belle-mère. » Qu'est-ce qu'une leçon morale qu'un homme ne doit pas oublier jusqu'à la fin de ses jours ? Je ne pensais pas que tu aurais fait cela, Samivel. Non, je ne l'aurais pas cru. Ces réflexions étaient trop pénibles pour l'infortuné père. Il porta le verre de Sam à ses lèvres et en but le contenu tout d'un trait. « Comment ça va-t-il maintenant ? » lui demanda son fils. « Ah, Samy !» « Ce sera une furieuse épreuve de voir ça à mon âge. Heureusement que je suis passablement coriace et c'est une consolation, comme disait le vieux dindon quand le fermier l'avertit qu'il était obligé de le tuer pour le porter au marché. »« Qu'est-ce qui sera une épreuve ?»« De te voir marié, Samy, de te voir comme une victime abusée qui s'imagine que tout est rose. » C'est une épreuve effroyable pour les sentiments d'un père, Samy. Bêtise, je ne suis pas là pour me marier. Ne vous vexez pas pour cela. Demandez plutôt votre pipe, je m'en vais vous lire ma lettre, là. Nous ne saurions dire positivement si le chagrin de M. Weller fut calmé par la perspective de sa pipe ou par la pensée qu'il y avait dans sa famille une propension fatale au mariage, contre laquelle il était inutile de vouloir lutter. Nous sommes portés à croire que cet heureux résultat fut atteint à la fois par ces deux sources combinées de consolation, car il répéta fréquemment la seconde à voix basse pendant qu'il sonnait pour se faire apporter la première. Ensuite, il se débarrassa de sa houppelande, alluma sa pipe et se plaça le dos au feu, de manière à en recevoir toute la chaleur et à s'appuyer en même temps sur le manteau de la cheminée. Puis il tourna vers Sam, son visage notablement adouci par la bénigne influence du tabac, et l'engagea à démarrer. Sam plongea sa plume dans l'encre pour être prêt à faire des corrections et commença d'un air théâtral. « Aimable !»« Halte !» fit M. Weller en tirant la sonnette. « Un double verre de l'invariable, ma chère !» « Très bien, monsieur !» répondit la jeune fille. Et, avec une singulière prestesse, elle disparut, revint et redisparut. « Ils ont l'air de connaître vos idées, ici !» fit observer Sam. « Oui, » répondit son père. « J'y ai été quelquefois dans ma vie. Allons, Sam !»« Aimable créature !»« Est-ce que c'est des verses ?»« Non, non !» « Tant mieux. Les verses, ce n'est pas naturel. Il n'y a pas un homme qui parle en verse, excepté la circulaire du Bedeau, le jour des étrennes, les annonces du cirage de Warren
ou l'huile de macassar, ou quelque genre de ce poil-là. Ne te laisse jamais aller à parler en verse, mon garçon. C'est trop commun. Recommence-moi un peu ça, Samy. »
Cela dit, M. Weller reprit sa pipe avec une solennité d'Aristarque, et Sam, recommençant pour la troisième fois, lut ainsi ce qu'il suit.
« Aimable créature, je sens que mon cœur est bigrement. »«
Cela n'est pas convenable, » interrompit M. Weller en ôtant sa pipe de sa bouche.
« Non, ça n'est pas bigrement, » dit Sam en tournant la lettre plus au jour.
« C'est joliment. Il y a un pâté là. Je sens que mon cœur est joliment tonteux. »«
Très bien, marchez. » »«
Et joliment tonteux. » »«
Et, sire,
j'ai oublié le mot qu'il y a là, » dit Sam en se grattant l'oreille avec sa plume.
« Pourquoi ne le regardes-tu pas alors ?»«
C'est ce que je fais, mais il y a un autre pâté. Il y a un S et un I. » Et un R.
Circonscrit, peut-être, suggéra M. Weller.
Non, ce n'est pas cela.
Circonvenu, voilà.
Ce n'est pas un aussi beau mot que circonscrit, dit M. Weller gravement.
Vous croyez?
Sûr et certain.
Vous ne trouvez pas que ça dit plus de choses?
Eh, fit M. Weller après un moment de réflexion. « C'est peut-être un mot plus tendre. Va toujours, Samy. »«
Mon cœur est joliment tonteux et circonvenu quand je me rappelle de vous, car vous êtes un joli brin de fille et je voudrais bien qu'on vînt me dire le contraire. »«
Voilà une belle pensée, » dit M. Weller en ôtant sa pipe pour laisser sortir cette remarque.
« Oui, je crois qu'elle n'est pas mauvaise, » répondit son fils, singulièrement flatté.
« Ce que j'aime dans ton style, c'est que tu ne donnes pas un tas de noms aux gens. Tu n'y mets pas de Vénus, ni d'autres machines de ce genre-là. À quoi sert d'appeler une jeune femme une Vénus ou un ange, Samy ?»«
Ah oui, à quoi bon ?
Pourquoi ne pas l'appeler tout de suite Griffon ou Licorne ?» qui est bien connu pour être des animaux métaphysiques.
Ça vaudrait tout autant.
Roulez toujours, Samy.
Sam obéit et continua à lire, tandis que son père continuait à fumer avec une physionomie de sagesse et de contentement tout à fait édifiante.
Avant de vous avoir vu, je pensais que toutes les femmes fussent pareilles.
Elles le sont, fit observer M. Weller entre parenthèses.
Mais maintenant, je vois quelle fichue bête de corps nichon j'ai été, car il n'y a pas dans tout le monde une personne comme vous, quoique je vous aime comme tout.
J'ai pensé que je ferais bien de mettre cela un peu fort, dit Sam en relevant la tête.
M. Weller fit un signe approbatif et son fils poursuivit. « Ici, je prends le privilège du jour, ma chère Marie, comme dit le Jean Mann dans l'embarras, qui ne sortait que la nuit, pour vous dire que la le et l'eunuque fois que je vous ai vu, votre porterie est imprimée dans mon cœur. » en couleur ben plus vive et ben plus vite qu'il n'y a jamais eu de portrait fait par la machine à porfil dont vous avez peut-être entendu parler, ma chère Marie, qui fabrique le portrait et met le cadre avec un anote au bout pour l'accrocher en 2 minutes 15.
« J'ai peur que ça ne frise le poétique, » fit observer M. Weller d'un air dubitatif.
« Pas du tout, » répondit Sam en recommençant promptement à lire pour éviter toute discussion. « Acceptez-moi, Marie, ma chère, pour votre Valentin et pensez à ce que je vous ai dit, ma chère Marie, je vais conclure maintenant. Voilà tout.
Ça s'arrête un peu court, il me semble, Samy.
Pas du tout. Elle souhaitera qu'il y en ait plus long. Et voilà le grand art d'écrire des lettres.
Eh ben, il y a quelque chose là-dedans. Je voudrais seulement que ta belle-mère conduise sa conversation sur ce principe ici. Est-ce que vous n'allez pas signer ?
C'est la difficulté, ça. Je ne sais pas ce que je vais signer.
Signe Weller ? Dit le vieux propriétaire de ce nom.
Ça n'ira pas. Il ne faut jamais signer un Valentin avec son propre nom.
Signe Pickwick, alors. C'est un très bon nom et facile à épeler.
Voilà l'affaire. Si je finissais par des verses, hein?
Je n'aime pas ça, mon garçon. Je n'ai jamais connu un respectable cocher qui a écrit de la poésie, excepté un qui a fait un grand morceau de verse attendrissant le jour avant qu'il a été pendu pour un vol de grand chemin, et encore, c'était seulement un homme de Camberwell. Ainsi, ça ne compte pas.
Cependant, Sam ne put être dissuadé de l'idée poétique qui lui était survenue. Il signa donc sa lettre ainsi qu'il suit. L'amour me pique, Pickwick. Ayant ensuite fermé son épître d'une manière très compliquée, il y mit obliquement l'adresse. Miss Marie, femme de chambre chez M. Nupkins, maire, Icewick, Suffolk. Puis, après l'avoir cacheté, il la fourra dans sa poche, toute prête pour la poste. Cette importante affaire étant terminée, M. Weller Senior commença à développer celle pour laquelle il avait convoqué son héritier.
La première histoire regarde ton gouverneur, Samy, lui dit-il. Il va être jugé demain, n'est-il pas vrai?
Sûr comme hache.
Eh bien, je suppose qu'il aura besoin de quelques témoins pour jurer ses mœurs, ou bien peut-être pour prouver un alibi. J'ai retourné tout cela dans ma tête et il peut se tranquilliser, Samy. J'ai ramassé quelques amis qui feront son affaire pour les deux choses. Mais voilà mon avis à moi. Vous inquiétez pas des mœurs et raccrochez-vous à l'alibi. Rien comme un alibi, Samy, rien.
Ayant délivré cette opinion légale d'un air singulièrement profond, M. Weller ensevelit son nez dans son verre et fit par-dessus le bord de rapides clins d'œil à son fils étonné.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Demanda celui-ci. Est-ce que vous vous imaginez qu'il va passer en cour d'assises ?
Ça ne fait rien à l'affaire, Samy. N'importe où ce qui sera jugé, mon garçon. Un alibi, voilà la chose. Nous avons sauvé Tom Wilspark d'un meurtre avec un alibi quand toutes les grosses perruques disaient que rien ne pouvait le tirer d'affaire. Et vois-tu, Samy, mon opinion est que si ton gouverneur ne prouve pas un alibi, il se trouvera couronné des deux jambes.
Comme M. Weller entretenait la conviction ferme et inébranlable que le Old Bailey était la cour suprême de judicature de l'Angleterre, et que ces formes de procédure réglaient toutes les autres cours de justice sans exception, il n'écouta en aucune manière les assurances et les arguments de son fils pour lui prouver que l'alibi était inadmissible. Mais il continua à protester avec véhémence que M. Pickwick allait être victimisé. Trouvant qu'il était inutile de discuter davantage cette matière, Sam changea de sujet et demanda quel était le second topic sur lequel son vénérable parent désirait le consulter.
C'est un point de politique domestique, Samy, répondit celui-ci. Tu sais bien ce Stiggins.
L'homme au nez rouge?
Le même. Cet homme au nez rouge, Samy, visite ta belle-mère avec une bonté et une constance comme je n'en ai jamais vu. Il aime tant notre famille que, quand il s'en va, il ne peut pas être confortable, à moins qu'il n'emporte quelque chose pour se souvenir de nous.
« Et si j'étais que de vous, interrompit Sam, je lui donnerais quelque chose qu'il s'en souviendrait pendant 10 ans. »
« Une minute, j'allais te dire qu'à présent, il apporte toujours une bouteille plate qui tient à peu près une pinte et demie
et qu'avant de s'en aller, il la remplit soigneusement avec notre rhum.
Et il la vide toujours avant de revenir, je suppose.
Juste, il n'y laisse rien que le bouchon et l'odeur.
Fie-toi à lui pour cela, Samy.
Maintenant, mon garçon, ces gaillards ici vont tenir ce soir l'assemblée mensuelle de la branche de Brick Lane, de la Grande Union Ebenezer à l'Association de Tempérance. Ta belle-mère était pour y aller, Samy, mais elle a attrapé le rhumatique et elle ne peut pas. Et moi, j'ai attrapé les deux billets qu'on y avait envoyés.
Monsieur Weller communiqua ce secret avec une immense jouissance et ensuite il se mit à cligner de l'œil si infatigablement que Sam commença à penser qu'il avait le tic douloureux dans la paupière droite.
« Eh bien, dit le jeune gentleman.
« Eh bien, continua son père en regardant avec précaution autour de lui,
nous irons ensemble, ponctuels à l'heure, Samy. »
Le substitut du berger ne le sera pas.
Le substitut du berger ne le sera pas.
Ici, M. Weller fut saisi d'un paroxysme de ricanement qui s'approcha graduellement de la suffocation autant que cela se peut chez un vieux gentleman sans amener d'accident. Pendant ce temps, Sam frottait le dos de son père assez vivement pour l'enflammer par la friction s'il eût été un peu plus sec.
« Vraiment, dit-il, je n'ai jamais vu un vieux revenant comme ça de mes jours, ni de ma vie. Qu'est-ce que vous avez donc à rire, corpulence ?»«
Chut, Samy, répondit M. Weller en regardant autour de lui avec encore plus de défiance et en parlant à voix basse.
Deux de mes amis, qui travaillent sur la route d'Oxford et qui est fameux pour toutes sortes de farces, ont pris le substitut du berger à la remorque. Et quand il viendra à la grande réunion Ebenezer, ce qu'il est bien sûr de faire, car ils le reconduiront jusqu'à la porte, et ils le feront monter, bon gré mal gré, si c'est nécessaire. Il sera embourbé dans le rhum aussi fort qu'il a jamais été au marquis de Grandbaille, et c'est pas peu dire. » Ici, M. Weller recommença à rire immodérément, et en conséquence, retomba sur nouveau frais dans un état de suffocation partielle. Rien ne pouvait mieux s'accorder avec les idées de Sam que le projet de démasquer les penchants et les qualités réelles de l'homme au nez rouge. L'heure désignée pour la réunion approchant, le père et le fils se dirigèrent immédiatement vers Brick Lane et, pendant le chemin, Sam n'oublia pas de jeter sa lettre à la poste. L'assemblée mensuelle de la branche de l'Association de Tempérance de Brick Lane, en branchement de la Grande Union Ebenezer, se tenait dans une vaste chambre située d'une manière agréable et aérée au sommet d'une échelle sûre et commode. Le président était le juste M. Anthony Hum, pompier converti, maintenant maître d'école et occasionnellement prédicant voyageur. Le secrétaire était M. Jonas Mudge, garçon chandelier, vase d'enthousiasme et de désintéressement qui vendait du thé aux membres de l'association. Préalablement au commencement des opérations, les dames étaient assises sur des tabourets et buvaient du thé, aussi longtemps qu'elles croyaient pouvoir le faire, tandis qu'une large tirelire de bois était placée en évidence sur le tapis vert du bureau, derrière lequel le secrétaire se tenait debout, reconnaissant par un gracieux sourire chaque addition à la riche veine de cuivre que la boîte renfermait dans ses flancs. Dans la présente occasion, les dames commencèrent par boire une grande quantité de thé presque alarmante, à la grande horreur de M. Weller, qui, méprisant les signes de Sam, promenait autour de lui des regards où pouvait se lire avec facilité son étonnement et son mépris. « Samy, murmura-t-il à son fils, si quelques-uns de ces gens ici n'ont pas besoin d'être opérés pour l'hydropisie demain matin, je ne suis pas ton père. » « Vois-tu cette vieille lady assise auprès de moi ? Elle se noie avec du thé. »«
Est-ce que vous ne pouvez pas vous tenir tranquille ?» chuchota Sam.
« Samy, reprit M. Weller au bout d'un moment et avec un accent d'agitation profonde, « fais attention à ce que je te dis, mon garçon. Si ce secrétaire continue encore 5 minutes, il va crever à force d'avaler des rôtis et de l'eau chaude.
« Eh bien, laissez-le si ça lui fait plaisir. Ce n'est pas votre affaire. »
« Si ça dure plus longtemps, Samy, » poursuivit M. Weller à voix basse, « je sens que c'est mon devoir comme homme et comme chrétien de me lever et d'adresser quelques paroles au président. Il y a là une jeune femme au 3e tabouret qui a bu 9 tasses et demie. Je la vois qui gonfle visiblement à l'œil nu. » Il n'y a nul doute que M. Weller eût exécuté ses bienveillantes intentions si un grand bruit, occasionné par le choc des tasses, n'avait pas heureusement annoncé que le thé était terminé. Et la table à la serge verte apportée au centre de la chambre, les opérations de la soirée furent entamées par un petit homme chauve, en culotte de velours de coton, qui grimpa soudainement à l'échelle, au hasard imminent de briser ses jambes maigrelettes.
« Ladies and gentlemen, » dit le petit homme chauve,
« je porte au fauteuil notre excellent frère, M. Antonin Hum. » À cette proposition, les dames agitèrent une élégante collection de mouchoirs et l'impétueux petit homme porta littéralement au fauteuil M. Hum en le prenant par les épaules et le poussant vers un ustensile d'acajou qui avait autrefois représenté cette pièce d'ameublement. L'agitation des mouchoirs fut renouvelée et M. Hum, qui avait un visage blafard et luisant, en état de transpiration perpétuelle, salua gracieusement l'assemblée, à la grande admiration des femelles, et prit gravement son siège. Le silence fut alors réclamé par le petit homme, puis M. Hum se leva et dit qu'avec la permission des frères et des sœurs de la branche de Brick Lane, alors présent, le secrétaire lirait le rapport du comité de la branche de Brick Lane, proposition qui fut encore accueillie par un trépignement de mouchoirs. Le secrétaire, ayant éternué d'une manière très expressive, et la toux qui saisit toujours une assemblée quand il va se passer quelque chose d'intéressant, ayant eu son cours régulier, on entendit la lecture du document suivant. Rapport du comité de la branche de Brick Lane, de la Grande Union et Bénézère, de l'Association de Tempérance. Votre comité a poursuivi ses agréables travaux durant le mois passé et a l'inexprimable plaisir de vous rapporter les cas suivants de nouveaux convertis à la tempérance. Monsieur Walker, tailleur, sa femme et ses 2 enfants. Quand il était plus à son aise, il confesse qu'il avait l'habitude de boire de l'aile et de la bière. Il dit qu'il n'est pas certain s'il n'a pas siroté pendant 20 ans, 2 fois par semaine, du nez de chien, que votre comité trouve sur enquête, être composé de porteurs chauds, de cassonades, de genièvre et de muscade. Ici, une femme âgée pousse un gémissement en s'écriant « C'est vrai !» Il est maintenant sans ouvrage et sans argent. Il pense que ce doit être la faute du porteur. Applaudissements. Ou la perte de l'usage de sa main droite. Il ne peut pas dire lequel des deux, mais il regarde comme très probable que s'il n'avait bu que de l'eau toute sa vie, son camarade ne l'aurait pas piqué avec une aiguille rouillée, ce qui a occasionné son accident. Immenses applaudissements. Il n'a plus rien à boire que de l'eau claire, et ne se sent jamais altéré. Grands applaudissements. Betsy Martin, veuve, n'a qu'un enfant et qu'un œil, va en journée comme femme de ménage et blanchisseuse, n'a jamais eu qu'un œil, mais sait que sa mère buvait solidement, ne serait pas étonnée si cela en était la cause. Terribles applaudissements. Ne regarde pas comme impossible qu'elle eût 2 yeux maintenant, si elle s'était toujours abstenue de spiritueux. Applaudissements formidables. Était habituée à recevoir par jour 1 shilling et 6 pence, une pinte de porteur et 1 verre d'eau de vie, mais depuis qu'elle est devenue membre de la branche de Brick Lane, elle demande toujours à la place 3 shillings et 6 pence. L'annonce de ce fait intéressant est reçue avec le plus étourdissant enthousiasme. Henry Beller a été pendant nombre d'années maître d'hôtel pour différents dîners de corporations. En ce temps-là, il buvait une grande quantité de vins étrangers. Il en a peut-être emporté quelquefois une bouteille ou deux chez lui. Il n'est pas tout à fait certain de cela, mais il est sûr que s'il les a emportés, il en a bu le contenu. Il se trouve très mal disposé et mélancolique, est agité la nuit et éprouve une soif continuelle. Il pense que ce doit être le vin qu'il avait l'habitude de boire. Applaudissements. Il est sans emploi maintenant et ne tâte jamais une seule goutte de vins étrangers. Applaudissements épouvantables. Thomas Burton, marchand de moût du Lord Mayor, des shérifs et de plusieurs membres du Common Council. Le nom de ce gentleman est entendu avec un intérêt saisissant. Il a une jambe de bois. Il trouve qu'une jambe de bois coûte bien cher quand on marche sur le pavé. Il avait l'habitude d'acheter des jambes de bois d'occasion et buvait régulièrement chaque soir un verre d'eau et de genièvre chaud. Quelquefois deux. Profond soupir. Il s'est aperçu que les jambes d'occasion se fendaient et se pourrissaient très promptement. Il est fermement persuadé que leur constitution était minée par l'eau et le genièvre. Applaudissements prolongés. Il achète maintenant des jambes de bois neuves et ne boit rien que de l'eau et du thé léger. Les nouvelles jambes de bois durent deux fois aussi longtemps que les anciennes et il attribue cela uniquement à ses habitudes de tempérance. Applaudissements triomphants. Après cette lecture, Anthony Hum proposa à l'assemblée de se régaler d'une chanson. Il l'invita à se joindre à lui pour chanter les paroles du joyeux batelier, adaptées à l'air du 100e psaume par le frère Murdlin, en vue de favoriser les jouissances morales et rationnelles de la société. Grands applaudissements. Monsieur Anthony Hum saisit cette opportunité d'exprimer sa ferme persuasion que feu Monsieur Dibdin, reconnaissant les erreurs de sa jeunesse, avait écrit cette chanson pour montrer les avantages de l'abstinence. C'est une chanson de tempérance. Tourbillon d'applaudissements. La propreté du costume de l'intéressant jeune homme, son habileté comme rameur, la désirable disposition d'esprit qui lui permettait, suivant la belle expression du poète, de ramer tout le jour en ne pensant à rien, tout se réunit pour prouver qu'il devait être buveur d'eau. Applaudissements. Oh, quel état de vertueuse jouissance ! Applaudissements enthousiastes. Et quelle fut la récompense du jeune homme ? Que tous les jeunes gens présents remarquent ceci. Les jeunes filles s'empressaient d'entrer dans son bateau. Bruyants applaudissements, surtout parmi les dames. Quel brillant exemple ! Les jeunes filles se pressant autour du jeune batelier et l'escortant dans le sentier du devoir et de la tempérance. Mais était-ce seulement les jeunes filles de bas étage qui le soignaient, qui le consolaient, qui le soutenaient ? Non. Il était le rameur chéri des plus belles dames du monde. Immenses applaudissements. Le doux sexe se ralliait comme un seul homme. Mille pardons, comme une seule femme, autour du jeune batelier et se détournait avec dégoût des buveurs de spiritueux. Applaudissements. Les frères de la branche de Brick Lane sont des bateliers d'eau douce. Applaudissements et rires. Cette chambre est leur bateau. Cette audience représente les jeunes filles et l'orateur, quoique indigne, est leur rameur chéri. Applaudissements frénétiques et interminables. « Samy, qu'est-ce qui veut dire par « le doux sexe » ?» demanda M. Wheeler à voix basse. « La femme !» répondit Sam du même ton. « Pour ça, il n'a pas tort. Faut qu'elle soit joliment douce pour se laisser plumer par des olibrius comme ça. » Les observations mordantes du vieux gentleman furent interrompues par le commencement de la chanson que M. Anthony Hump psalmodiait deux lignes par deux lignes, pour l'instruction de ceux de ses auditeurs qui ne connaissaient point la légende. Pendant qu'on chantait, le petit homme chauve disparut, mais il revint aussitôt que la chanson fut terminée, et parla bas à M. Anthony Hum avec un visage plein d'importance.
« Mes amis, dit M. Hum en levant la main d'un air suppliant pour faire taire quelques vieilles ladies qui étaient en arrière d'un verre ou deux. « Mes amis, un délégué de la branche de Dorking, de notre société, le frère Stiggins, est en bas. »
Les mouchoirs s'agitèrent de nouveau et plus fort que jamais, car M. Stiggins était extrêmement populaire parmi les dames de Brick Lane.
« Il peut entrer, je pense, dit M. Hum en regardant autour de lui avec un sourire fixe. « Frère Tagder, il peut venir auprès de nous et remplir sa mission. »
Le petit homme chauve, qui répondait au nom de frère Tadger, dégringola l'échelle avec une grande rapidité, puis immédiatement après, on l'entendit remonter avec le révérend Monsieur Stiggins.
« Le voilà qui vient, Samy !» chuchota Monsieur Weller, dont le visage était pourpre d'une envie de rire supprimée.
« Ne lui dites rien, répartit Sam, je ne pourrai pas me retenir. Il est près de la porte. » « Je l'entends qui se cogne la tête contre la cloison. »
Pendant que Sam parlait, la porte s'ouvrit et le frère Tadger parut, immédiatement suivi par le révérend M. Stiggins. L'entrée de celui-ci fut accueillie par des bravos, par des trépignements, par des agitations de mouchoirs. Mais à toutes ces manifestations de délices, le frère Stiggins ne répondit pas un seul mot, se contentant de regarder avec un sourire hébété la chandelle qui fumait sur la table et balançant en même temps son corps d'une manière irrégulière et alarmante.
« Est-ce que vous n'allez pas bien, frère Stiggins ?» lui dit tout bas M. Anthony Hum.
« Je vais très bien, monsieur !»
répliqua M. Stiggins d'une voix aussi féroce que le permettait l'épaisseur de sa langue.
« Je vais parfaitement, monsieur !»«
Tant mieux, tant mieux !» reprit M. Anthony Hum en reculant de quelques pas.
« J'espère que personne ici ne se permet de dire que je ne suis pas bien !»«
Oh, certainement non !»«
Je les engage à ne pas le dire, monsieur !»« Je les y engage !»
Pendant ce colloque, l'assemblée était restée parfaitement silencieuse, attendant avec une certaine anxiété la reprise de ses travaux ordinaires.
« Frère, dit M. Hum avec un sourire engageant, voulez-vous édifier l'assemblée ?»«
Non,
répliqua M. Stiggins.
L'assemblée leva les yeux au ciel et un murmure d'étonnement parcourut la salle.
« Monsieur !» dit M. Stiggins en déboutonnant son habit et en parlant très haut. « J'ai dans l'opinion que cette assemblée s'est honteusement saoulée. »«
Frère Tagger !» continua-t-il avec une férocité croissante et en se tournant brusquement vers le petit homme chauve.
« Vous êtes saoul, monsieur !»
En disant ces mots, M. Stiggins, dans le louable dessein d'encourager la sobriété de l'assemblée et d'en exclure toute personne indigne, lança sur le nez de frère Tadger un coup de poing si bien appliqué que le petit secrétaire disparut en un clin d'œil. Il avait été précipité la tête première en bas de l'échelle. À ce mouvement oratoire, les femmes poussèrent des cris déchirants et, se précipitant par petits groupes autour de leurs frères favoris, les entourèrent de leurs bras pour les préserver du danger. Cette preuve d'affection touchante devint presque fatale au frère Hum, car il était extrêmement populaire et il s'en fallut de peu qu'il ne fût étouffé par la foule des séides femelles qui se pendirent à son cou et l'accablèrent de leurs caresses. La plus grande partie des lumières furent promptement éteintes et l'on n'entendit plus de toutes parts qu'un tumulte épouvantable.
« Maintenant, Samy, dit M. Weller en ôtant sa redingote d'un air délibéré, allez-vous-en me chercher un watchman. »
« Et qu'est-ce donc que vous allez faire en attendant ?»«
Ne vous inquiétez pas de moi, Samy. Je vais m'occuper à régler un petit compte avec ce Stiggins ici. »
Ayant ainsi parlé
et avant que Sam pût le retenir, l'héroïque vieillard pénétra dans le coin de la chambre où se trouvait le révérend M. Stiggins et l'attaqua avec une admirable dextérité.
« Venez-vous-en !» dit Sam.
« Avancez donc !» s'écria M. Weller. Et sans autre avertissement, il administra au révérend M. Stiggins une tape sur la tête, puis se mit à danser autour de lui avec une légèreté parfaitement admirable chez un gentleman de cet âge. Voyant que ses remontrances étaient inutiles, Sam enfonça solidement son chapeau, jeta sur son bras l'habit de son père et, saisissant le gros cocher par la ceinture, l'entraîna de force le long de l'échelle et de là dans la rue, sans le lâcher et sans lui permettre de s'arrêter. Comme ils arrivaient au carrefour, ils entendirent le tumulte occasionné par la dispersion, dans différentes directions, des membres de la branche de Brick Lane, de la Grande Union des Bénézères, à l'Association de Tempérance, et virent bientôt après passer le révérend M. Stiggins, que l'on emmenait parmi les huées de la populace, afin de lui faire passer la nuit dans un logement fourni par la cité.